après la mort de Charles V et de Bertrand du Guesclin. Alors pourquoi cette publication? En fait, je souhaitais arrêter mon blog à la mort de Charles V et de Bertrand du Guesclin. Eh bien non, car la guerre de 100 ans continue après leur disparition. Donc je vais donc vous parler du règne de Charles VI, son histoire, son entourage, ses conflits, ses joies et ses peines. Charles V est mort le 16 septembre 1380. Son fils Charles VI fut couronné roi de France le 4 novembre 1380 dans la cathédrale de Reims. Il n'avait que 12 ans. La régence fut dirigée par ses oncles, les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry, côté paternel, de Bourbon, côté maternel. La mort de Charles V fut une calamité pour le royaume de France, car le jeune roi fut livré à ses oncles sans scrupules et avide de richesses. Le duc d'Anjou, Louis Ier, était préoccupé par son entrée dans le royaume de Naples en épousant la reine Jeanne de Naples. Le duc de Bourgogne, Philippe II le Hardi, ne cherchait qu'à se marier à Marguerite III de Flandre pour agrandir son territoire et devenir le plus puissant des sires des Fleurs de Lys. Quant à Jean de Berry, il ne pensait qu'à jouir de ses plaisirs et de ses trésors, sachant qu'il était avare et rapace. Le duc de Bourbon, Louis II, était un excellent prince et l'oncle préféré de Charles VI, mais sans grande influence dans le royaume. Par contre, il fut le seul de ses oncles à ne pas être tombé en disgrâce. Pendant l'agonie de feu Charles V, le duc d'Anjou, l'aîné des frères, devant prendre le titre de régent, s'était caché dans une chambre voisine. À peine avait-il expiré que le duc se fit livrer les joyeux hauts de la couronne, le trésor, une épargne en lingots d'or et d'argent qu'il avait été scellé et menaça même de mort le trésorier du roi Savoisy. Les autres frères ne resteraient pas sans rien. Ils se garnirent bien les mains. Le duc de Bourgogne s'adjugea les gouvernements de Normandie et de la Picardie. Le duc de Berry prit le Languedoc et l'Aquitaine. Il avait déjà le Berry, l'Auvergne et le Poitou en apanage. C'était le tiers du royaume qui se trouvait livré à sa rapacité. Un changement de règne était toujours un moment d'espérance. On demanda l'abolition de certains impôts. Le duc d'Anjou promit de supprimer tous ceux qui avaient été établis depuis Philippe le Bel. Mais il n'en était rien. Aussi, le régent ne respecta pas sa parole. Les difficultés commencèrent en France. Le dernier jour de février 1382, un crieur public parut à cheval sur la grande place des Grèves à Paris, actuellement l'hôtel de ville, place de l'hôtel de ville. Il annonça que l'argenterie du roi avait été volée et promit une bonne récompense à qui la retrouverait. Quand il vit la foule occupée par la nouvelle, il cria que le lendemain, un nouvel impôt serait levé sur toutes les marchandises vendues, et puis se sauva à toute bride. En effet, le lendemain, le 1er mars, les percepteurs se présentèrent aux halles, et l'un d'eux commença à demander l'impôt sur un peu de cresson que venait de vendre une vieille dame. Une émeute furieuse éclata. Les émeutiers convergèrent vers l'hôtel de ville et l'arsenal en vue de prendre les armes des maillets neufs qu'ils avaient trouvés amassés au cas où les Anglais arriveraient. On l'appela la révolte des maillotins. Comme dans toute révolte, en ce temps-là, la fureur retomba pour laisser place à la terreur et au découragement. Les Parisiens s'opposèrent au roi. 20 000 hommes se rangèrent en bataille sous Montmartre. Le roi se présenta casqué et armé. La révolte cessa aussitôt. On noya, pendit et décapita 300 des plus riches bourgeois de la capitale. Parmi les morts, on remarqua Nicolas le Flamand, qui avait participé à l'assassinat des maréchaux avec Étienne Marcel au temps de son père, de Charles V. Jean Desmarais, un avocat général du Parlement et un des négociateurs du traité de Brétigny de 1360, fut arrêté et puis pendu. On imposa des amendes ruineuses aux autres. Avec leurs produits, le duc d'Anjou partit pour l'Italie. Le nouvel impôt fut retiré. La nouvelle sur l'émeute des maillotins se répandit dans tout le royaume. À Rouen, à Reims, Châlons, Troyes, Orléans, dans le nord en Flandre, c'était l'insurrection des chaperons blancs qui finit par la défaite des Flamands à la bataille de Rosebecque le 27 novembre 1382. Dans le sud, dans le Languedoc, les Tuchins qui tuaient et dépouillaient les nobles et les riches bourgeois. À la mort de Bertrand du Guesclin, Louis, comte de Sancerre et maréchal de France, continua l'œuvre du héros. Il s'avança en Guyenne et mit le siège de Mont-Guyon, en Charente-Maritime, à une journée de marche de Libourne. Les Anglais furent presque chassés de France. En 1380, il ne leur restait que quelques villes françaises, dont Bayonne, Bordeaux, Brest, Cherbourg et Calais. Dans le même temps, Charles II le Mauvais, le roi de Navarre, fut accablé et ne sauva son royaume pyrénéen qu'en livrant 20 places fortes aux Français comme gage de paix.